Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce cinquième podcast de notre série portant sur les enjeux écologiques des prochaines élections européennes. Cette série fait intervenir plusieurs personnalités qui ont contribué au dossier que la Fabrique écologique vient de publier sur ce sujet. Ce dossier est composé d'une trentaine de fiches sur les différents thèmes de la transition écologique et est librement accessible sur le site de la Fabrique écologique. Dans cet épisode, je reçois Valérie Lebren, chargée de programme au sein de l'association Bloom, pour discuter des enjeux de la pêche au niveau de l'Union européenne. Valérie Lebren, bonjour.
Bonjour.
Le secteur de la pêche impacte durablement la biodiversité marine. L'Union européenne, en tant qu'acteur clé de ce domaine, se positionne en tant que 8e puissance de pêche mondiale. Pourriez-vous nous décrire l'impact de la pêche européenne sur l'état des océans ?
Alors, tout d'abord, merci de nous recevoir et de nous donner l'opportunité de présenter ce sujet qui est très important. Donc, moi, je travaille pour l'association Bloom, qui est une association de protection de l'océan et de lutte contre la surpêche. Pour vous donner un peu les ordres de grandeur principaux, la pêche a été reconnue par l'IPBES, donc l'équivalent du GIEC, mais pour la biodiversité, comme la première cause de destruction des écosystèmes mondiaux au cours des 50 dernières années. Donc c'est un tout petit secteur, mais qui a un impact colossal au niveau mondial. Et on a une comparaison qui existe, et c'est toujours bien de mettre en regard les secteurs, parfois les uns par rapport aux autres. En termes d'empreinte spatiale, la pêche au niveau mondial, c'est 4 fois l'empreinte spatiale de l'agriculture. L'agriculture, c'est 50 millions de kilomètres carrés, la pêche, c'est 200 millions de kilomètres carrés. Donc c'est énorme. L'Union européenne est un acteur majeur, vous l'avez dit. Alors c'est la 8e puissance de pêche au niveau mondial, avec des flottes qui opèrent à peu près sur l'ensemble des océans, à la fois parce que, par exemple, nous, la France, nous avons des territoires outre-mer, nous sommes aussi possessionnés en Antarctique, donc on a des possibilités d'aller pêcher dans ces eaux très lointaines. Et puis, il faut aussi savoir que l'Union européenne conclut ce qu'on appelle des accords de pêche avec des pays tiers, notamment des pays d'Afrique de l'Ouest et des pays de l'océan Indien, pour aller en fait exploiter les stocks de poissons dans les eaux côtières de ces États. Donc on est un petit peu partout à la surface du globe, et donc on a un impact colossal à la fois dans les eaux européennes et dans les eaux mondiales et les eaux de nos voisins. En termes d'impact dans les eaux européennes, c'est toujours important de refaire un petit peu un pas de côté. À la fin des années 90, où là c'était vraiment une situation qui était vraiment catastrophique, on avait 90% des stocks d'Atlantique Nord-Est qui étaient surpêchés. Donc il y a eu des mesures qui ont été prises par l'Union européenne au début des années 2000, bon, qui n'ont pas suffi, on aura l'occasion d'y revenir. Mais en 2018, quand on a refait des évaluations, alors il y a des évaluations annuelles des stocks au niveau européen, et puis parfois vous avez des études complémentaires qui permettent de jeter de produire des nouvelles analyses, ou en tout cas d'avoir des points de vue un tout petit peu différents, vous aviez 69% des 397 stocks européens de poissons qui étaient évalués, qui étaient surexploités. Donc c'est énorme. Donc évidemment, quand on regarde d'année en année les évolutions dans les évaluations de stocks, on voit des améliorations, ça on peut pas dire le contraire, mais si on regarde sur une tendance globale un peu longue et rétrospective, oui, ça va mieux, mais on est encore très, très loin du compte. L'impact de la pêche, c'est évidemment un impact sur les écosystèmes qu'on peut mesurer par rapport à l'état de santé des stocks de poissons, c'est des indicateurs qu'on a. Mais évidemment, la pêche, ça comprend tout un tas de méthodes, de bateaux de différentes tailles, et donc il faut apporter de la nuance, en fait, dans cette présentation. Nous, ce qu'on a fait en janvier 2024, c'est on a publié un rapport qui s'appelle « Changer de cap », qui est le fruit, en fait, d'un long travail de recherche dans le cadre d'un groupement que nous avons constitué, donc Bloom, avec l'Agro, Paris Tech, l'Institut Agro, le Shift Project et le HESS, avec la collaboration de l'Atelier des Jours à Venir, pour essayer de poser un diagnostic de la performance sociale, écologique et économique des flottes de pêche européennes, en passant au crible en fait les différentes méthodes de pêche et en fixant un certain nombre d'indicateurs pour évaluer leur performance. Et les résultats auxquels nous sommes arrivés, dans un bilan qui n'avait donc jamais été fait jusqu'à présent, ce qui paraît dingue, mais ça n'a jamais été fait, c'est qu'on a un bilan très très négatif pour la pêche industrielle, et notamment pour les navires de plus de 24 mètres utilisant des chaluts et des seines de fond. Donc eux, ils ont un bilan très mauvais sur l'ensemble des indicateurs qu'on a fixés. On a une destruction des fonds marins en raison de l'abrasivité, une surexploitation des espèces pêchées, des captures de juvéniles, une faible capacité à créer de l'emploi, une faible valeur ajoutée, un fort impact carbone et beaucoup d'émissions de CO2. Donc bon, quand on fait ce bilan-là, c'est quand même pas très reluisant. Et donc la pêche doit être aussi vue sous ce prisme.
Et au sein de l'Union européenne, la pêche, elle est réglementée par la politique commune de la pêche, PCP, qui a subi plusieurs réformes au fil du temps. Et comment cette PCP, cette politique de la pêche, a-t-elle émergé et comment ces réformes ont-elles influencé l'évolution de la politique de la pêche ?
Alors c'est effectivement la pêche, c'est comme l'agriculture, en fait, c'est une politique commune. Donc les décisions sont prises majoritairement au niveau européen et déclinées ensuite ou mises en œuvre par les États avec une certaine marge de manœuvre. Au départ, la politique commune de la pêche n'existait pas, puisque la pêche était incluse dans la politique agricole commune. Et en fait, elle s'en est progressivement détachée, notamment dans les années 70. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais c'était l'époque où il y avait les négociations internationales autour de ce qui deviendra plus tard, en 82, la Convention de Montego Bay, donc qui est la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qui est venue, codifier le droit de la mer. Et donc c'est dans ces années 70 que la pêche est sortie progressivement de la politique agricole commune jusqu'à devenir totalement autonome à partir de 1983. Donc le premier objectif en 83 de la politique commune de la pêche, c'était de garantir une exploitation équitable entre les différents membres, les différents pays de l'Union européenne. Et donc équitable, ça veut dire un accès aux ressources et des volumes pêchés qui soient en tout cas équivalents à la taille, aux droits historiques de pêche de chaque pays membre. Et c'est à cette époque qu'ont été mis en place à l'échelle de l'Union européenne ce qu'on appelle les TAC, donc les totaux admissibles de capture, qu'on connaît dans le grand public mieux sous le nom de quotas de pêche. En fait, les totaux admissibles de capture, c'est au niveau de l'Union européenne, et ensuite ils sont subdivisés en quotas par pays, suivant une clé de répartition historique qui a été fixée justement dans les années 80. Donc ça, c'est les tout débuts en fait de la politique commune de la pêche. On va avoir une première réforme qui va intervenir au début des années 90, avec quand même une approche assez paradoxale, c'est-à-dire qu'on commence à voir quand même et à prendre conscience, y compris au niveau international, que les écosystèmes marins, enfin, notamment les stocks de poissons, on n'est pas encore dans une approche tout à fait environnementale, mais se portent mal, parce qu'on a des grands stocks de poissons qui sont en train de... Au niveau mondial, je pense que la morue à Terre-Neuve, c'est un cas vraiment très très emblématique, qui s'effondre. On a eu tout un tas d'exemples comme ça. Donc au début des années 90, il y a une prise de conscience internationale qu'on commence aussi à voir au niveau européen avec des stocks qui ne sont pas en bon état. Et donc là, on est dans une approche qui est quand même un peu paradoxale, c'est-à-dire qu'à la fois, si on regarde les mesures de financement qui sont mises en place, à la fois on continue de construire des bateaux. Donc on met des subventions pour construire des bateaux, on met des subventions pour moderniser des navires de pêche, mais en même temps, on commence à mettre en place les premiers plans de sortie de flotte pour casser des navires. Vous voyez, vous êtes dans cette espèce de système un peu contradictoire. Fin des années 90, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a 90% des stocks en Atlantique Nord-Est qui sont surpêchés, donc là, c'est la catastrophe. Il faut totalement changer de braquet. Et donc on a cette réforme de 2002 qui vraiment marque le pas avec un tournant beaucoup plus environnemental, mais qui ne va pas suffire néanmoins à ramener les stocks de poissons européens à un niveau durable. Donc on a cette nouvelle réforme en 2013 qui là est vraiment très marquante, puisque plusieurs mesures sont prises. On a des plans de gestion pluriannuels qui sont mis en place. on a un objectif de ramener les stocks à un niveau d'exploitation durable. On veut, la politique commune de la pêche veut mettre en place aussi des plans nationaux de capacité, on interdit les rejets. Et surtout, il y a ce fameux article 17 de la PCP qui prévoit des droits de pêche, des droits de pêche plus importants. En tout cas, qu'il s'agit de privilégier la petite pêche côtière et artisanale qui est plus respectueuse des ressources.
Je me demandais dans quelle mesure les politiques européennes de la pêche elles façonnent concrètement les politiques nationales.
Alors, effectivement, à partir du moment où vous avez une politique commune, les choses sont calibrées, si je puis dire, au niveau européen. Mais le niveau européen, ce n'est pas quelque chose qui flotte dans l'air et qui serait totalement déconnecté du national. En réalité, on a une sorte de système de courroie entre le niveau national et le niveau européen qui existe. Donc les politiques européennes, elles se font d'abord au Parlement européen et puis ensuite au Conseil. Et le Conseil, ce sont les États membres qui négocient entre eux. Donc le national n'est pas du tout absent. Au contraire, il se joue au niveau européen. C'est pour ça que le niveau européen est extrêmement important. Et c'est important de voter aux élections européennes. Je profite de ce moment pour le dire. Et ensuite, on a une Europe qui n'est pas non plus dans un système fédéral. C'est-à-dire que les États ont une marge de manœuvre. Et ça, je vais vous donner un exemple extrêmement concret. Quand vous avez un règlement européen, par exemple, on l'a vu au moment du Covid, chaque État met en œuvre ces réglementations-là, mais avec une marge de manœuvre pour adapter le dispositif à ses propres spécificités. Et par exemple, dans le cas des arrêts temporaires de pêche, donc c'était un système d'indemnisation des pêcheurs qui était mis en place au moment du premier confinement. Les critères qui ont été mis en place par le ministère en France, c'était une enveloppe européenne, mais les critères mis en place en France étaient, en tout cas, nous on en avait dénoncé le caractère discriminatoire, et quand on a regardé ensuite concrètement l'allocation des aides à ce moment-là, on s'est rendu compte que 80% des aides avaient bénéficié à des navires utilisant des méthodes de pêche destructrices, et que la pêche artisanale, qui représente en gros 75%, en tout cas à l'époque 75% de la flotte française, la pêche artisanale avait bénéficié de moins de 10% des aides, avec un système de captation très important par les grosses entreprises de pêche. Donc vous voyez, c'est... Évidemment, il faut, le niveau européen doit être mis en place, mis en œuvre par les États, mais qui ont une marge de manœuvre.
Et comment pourrait-on concrètement amorcer la transition sociale et écologique du secteur de la pêche au niveau européen, et surtout quels obstacles entravent ce processus ?
Alors, c'est une excellente question sur laquelle nous, on travaille beaucoup chez Bloom, parce que on a un diagnostic qui est à peu près clair aujourd'hui de ce qui ne fonctionne pas. Maintenant, le tout, c'est de réussir à faire des propositions pour amorcer cette transition. Et donc, c'est tout l'enjeu de nos programmes de recherche, d'avoir à la fois ce côté, cette dimension bilan de la performance et poser, en fait, des scénarios de transition. Donc, nous, on travaille là-dessus. Une chose sur laquelle on travaille depuis des années, ce sont les subventions à la pêche, puisque, en fait, les financements sont le bras armé des politiques. Donc en fonction de ce qu'on décide de financer, de soutenir, on donne des orientations à un secteur. Or, quand on fait le bilan sur ces 30 dernières années au niveau européen des subventions, donc des fonds européens à la pêche, exactement comme il existe des fonds européens à l'agriculture, on voit que finalement, le modèle qui est le plus vertueux du point de vue environnemental, qui est le plus performant socialement en créant des emplois, et qui est également le plus performant sur le plan économique, c'est le modèle de la petite pêche artisanale. Et en fait, c'est ce modèle-là qu'on ne soutient pas. Et qu'on ne soutient pas d'abord parce que ce sont des pêcheurs qui n'ont pas de quotas, ou très peu, c'est très difficile, c'est verrouillé, et qui ne sont pas non plus soutenus du point de vue financier. J'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure en ce qui concernait l'allocation des aides aux arrêts temporaires Covid. Donc nous, chez Bloom, on a fait, dans le cadre des élections européennes, nos 15 points pour l'océan, que je vous invite à aller consulter, et qui sont articulés autour de trois axes qui sont relativement simples et de bon sens. Premièrement, c'est arrêter de détruire. Hein, on va déjà commencer par le début. Arrêter de détruire l'océan, ça implique d'arrêter d'utiliser des méthodes de pêche destructrices. Alors évidemment, on ne va pas arrêter du jour au lendemain, mais en tout cas, il faut planifier, organiser la sortie de ces méthodes de pêche destructrices qui ne sont pas en plus rentables. Parce qu'elles sont extrêmement, je pense au chalut, qui est extrêmement gourmand en carburant, qui a un impact colossal, et qui, en fait, à la moindre augmentation des prix du gasoil à la pompe, se retrouve dans une situation économique épouvantable. Donc, en fait, de toute façon, ça n'est pas viable. Donc, soit on continue de faire comme si de rien n'était, et on va laisser les gens aller au casse-pipe, soit on organise la transition. On accompagne, on soutient la conversion vers des méthodes de pêche qui sont moins impactantes pour les écosystèmes et qui permettront accessoirement au secteur d'avoir une meilleure performance aussi économique. Mais ça s'organise, donc ça doit être fait au niveau européen. Donc pour nous, la prochaine échéance, qui va être majeure du point de vue de la prochaine mandature, ça va être évidemment la réforme des fonds européens à la pêche. Parce que c'est une réforme qui doit aboutir d'ici fin 2027 pour un démarrage de ce prochain fonds début 2028 et qui courra jusqu'à 2034 environ. Là, on a une fenêtre, on a une possibilité par les subventions publiques de décider quel est l'avenir qu'on veut dessiner pour le secteur de la pêche au niveau européen. Et l'Union européenne peut aussi avoir un rôle de locomotive si elle décide de le faire au niveau international, en montrant l'exemple. Voilà. C'est ça qu'on attend de l'Europe. C'est un sujet, comment l'Europe se positionne et comment elle a la capacité à montrer au reste du monde qu'elle peut en fait changer les choses et que c'est possible. Et on doit en faire la démonstration pour être crédible. Voilà. Donc c'est ça qui va être très important durant la prochaine mandature. Et donc nous, on va se mobiliser pour faire cette campagne, pour que au moins les subventions à la pêche soutiennent les méthodes qui sont les plus vertueuses et qu'on puisse en tout cas financer la transition du secteur de la pêche dans les prochaines années.
Merci Valérie Lebrun.
Merci beaucoup.